des artistes du
IN.
L'écho des planches part à la rencontre des artistes du
IN
au gré de ses coups de cœur.
Bonne
écoute
à tous
sur l'écho des planches. Bonjour à tous, nous sommes en compagnie d'Ahmed El Attar pour Mama, qui se joue jusqu'au 23 juillet au Festival d'Avignon au gymnase du lycée Aubanel. Et c'est donc avec sa compagnie Temple qu'il revient, puisqu'il nous a déjà présenté en 2015 au Festival d'Avignon son précédent spectacle, The Last Supper. Ahmed El Attar, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes tout de suite après l'issue du point presse et j'aimerais vous interroger sur cette logique de cycle que vous avez entamée. Alors, malheureusement, peut-être parce qu'il n'a pas joué en France ou en tout cas parce que j'étais trop jeune, j'ai pas vu votre première pièce du cycle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette logique que vous poursuivez dans ce cycle de trois pièces dont Mama serait la dernière partie ?
En fait, c'était un cycle qui n'était pas un au début, parce que le premier spectacle était qui s'appelait La vie est belle ou En attendant mon oncle d'Amérique, était qui exposait une famille de la classe moyenne égyptienne qui représentait un peu autobiographique. Et c'est que plusieurs années plus tard, en 2014, quand j'ai créé La Last Supper, que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus, qui formera une trilogie avec Mama. Et du coup, aujourd'hui, je les vois les trois comme une trilogie qui parle de la famille et de relations de pouvoir au sein de la famille. Mais au début, c'était pas ça.
Et vous parlez de trilogie, de cycle, et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à la filiation littéraire de ce que vous travaillez. En France, nous aussi, on a cette logique de cycle dans le roman, notamment avec Zola, Balzac, voilà, qui écrivent des cycles romanesques. Et en Égypte, vous avez Maguim Mahfouz qui traite quelque chose qui ressemble au travail que vous menez sur la bourgeoisie égyptienne. Alors, dans les années 30, quelle est l'évolution entre le regard que lui porte sur la société égyptienne à cette époque-là, qui est très particulière, et la société, la bourgeoisie égyptienne aujourd'hui?
Moi, je pense que lui, c'était pas vraiment la grande bourgeoisie. C'est ça la différence de classe. Et puis, les choses ont un peu évolué dans la société égyptienne. C'est-à-dire que la place de la femme a beaucoup changé depuis Naguib Mahfouz. La société elle-même a changé. Mais je pense que c'est surtout la différence de classe. C'est-à-dire, lui, il s'attaquait plutôt à la classe moyenne et au-dessus de la moyenne. Moi, je m'attaque vraiment à la grande bourgeoisie égyptienne qui est peu représentée dans la littérature. Pas seulement le théâtre, mais la littérature en général. Je pense parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à ça.
Et il y a quelque chose, vous avez évoqué dans la conférence de presse ce manque de conscience de la bourgeoisie. Et on le sait, si on prend par exemple notre exemple à nous de Révolution française, on sait que ces changements viennent précisément de cette classe-là. Et dans les révolutions arabes qui ont été menées, est-ce que vous pensez que c'est ça qui finalement a empêché que ces révolutions arabes aboutissent à quelque chose qui ressemblerait à une société qui n'est évidemment pas parfaite, mais en tout cas telle que le pensaient les révolutionnaires de 1789 en France ?
Je pense que oui, parce qu'en fait, ça c'est un point très important, et je disais ça pendant la révolution et les années qui ont suivi, c'est qu'en fait la révolution égyptienne et les révolutions du monde arabe manquaient d'intellectualité. Il n'y avait pas c'est-à-dire la révolution française, il y avait des écrits qui ont précédé la révolution, qui ont formé une certaine conscience intellectuelle, qui ont été développées par certains membres de la bourgeoisie qui ont accédé à ces pensées, et que dans le monde arabe, en fait, les révolutions sont arrivées et il n'y avait aucune pensée derrière. C'était un moment très fort émotionnellement, c'est comme instinctif, mais intellectuellement, il manquait ça. Il n'y avait pas une base intellectuelle qui pouvait aider. C'est tout ce monde de très différent, de ce, de, de, d'aller en avant vers une idéologie ou une perception intellectuelle de l'avenir. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une des raisons que les révolutions, en majorité, n'ont pas réussi.
Et à votre échelle, puisque vous dirigez aussi un festival de théâtre au Caire, est-ce qu'à votre échelle, vous pensez que le travail théâtral que vous menez, que ce soit dans votre compagnie, le Temple Compagnie, ou votre travail de diffusion artistique, est-ce que vous pensez que ça peut se substituer à cette pensée qui n'est pas là ?
Oui et non, parce qu'en fait, l'art, il crée des réflexions, il est composé de réflexions et de questions et incite les spectateurs à poser eux-mêmes ces questions et faire leurs propres conclusions. Mais il faut une pensée qui est plus philosophique, plus quand Rousseau écrit sur la condition humaine. Voilà, c'est autre chose. C'est ça crée une base commune par laquelle on peut de laquelle on peut partir. Le théâtre et l'art utilisent d'autres moyens, mais je pense que c'est pas suffisant.
Alors votre pièce actuelle tourne autour d'une figure centrale, qui est la figure de la mama, et qui n'est d'ailleurs pas une figure seulement présente dans les pays arabes, qui est présente par exemple dans les pays italiens. Par exemple, moi aussi j'ai une mama, et du coup je reconnais, j'identifie des choses qui sont semblables, notamment dans cette soumission quelque part à ce qu'on pourrait appeler des préjugés sociaux, mais qui fondent toute l'existence de la mama, justement parce que c'est son monde en fait. Comment est-ce que vous avez construit ce monde-là ? Comment est-ce que vous l'avez immergé dans le théâtre ? Parce que, rappelons-le quand même, on ne rentre pas dans l'intimité de cette femme. Elle nous reste malgré tout très extérieure.
En fait, tous les personnages restent très extérieurs. C'est ça qui est pour moi très choquant dans cette vie familiale égyptienne et dans cette société que j'essaie de représenter, c'est qu'on reste à l'extérieur. Il n'y a jamais les moments de vérité sont très rares. Et on est toujours en train de se protéger de l'autre, même des gens qui sont le plus proches, parce que l'autre ou n'accepte pas la critique, ou a peur de s'exposer, les conditions de la société, c'est-à-dire la place du père ou de la mère ou du serveur, empêchent qu'on s'expose devant eux. Voilà. Et du coup, on est dans une société qui vit avec qui ne se montre pas en vérité. Et c'est pour ça que la maman et les autres personnages, on les voit, mais on n'a pas l'impression de vraiment les connaître. Pourtant, on a passé une heure et quelques avec eux.
Il y a une dimension assez subtile dans ce travail dans Mama, qui était aussi présent dans The Last Supper. C'est toute cette réflexion menée autour de la religion dans les pays arabes, en tout cas en Égypte. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement la haute bourgeoisie de la société égyptienne vit d'une certaine façon, de manière peut-être plus libre que les classes moins aisées, parce que la religion y a une place moins présente, remplacée peut-être par la culture ou je ne sais quoi. Et pour autant, comment est-ce que cette fragilité, finalement, ce lien fragile entre la culture et la religion, qui est une culture magnifique en soi, comment est-ce que ce lien s'établit dans la société égyptienne, dans la haute bourgeoisie, et surtout comment est-ce que vous l'avez pensé dans votre travail théâtral ?
En fait, aujourd'hui, la religion elle est omniprésente dans la société égyptienne, que ce soit dans les classes bourgeoises ou dans les classes moins aisées, la religion elle est là. C'est aussi un outil de pouvoir, même aujourd'hui, même dans tout le conflit qui existe entre la société actuelle et les frères musulmans, la religion est utilisée par tout le monde comme un outil de pouvoir. Et moi, ce qui aussi, encore une fois, m'intéresse dans tout ça, c'est le fait que la perception qu'on a de la religion, c'est-à-dire la religion, c'est quelque chose, c'est un rapport individuel, personnel, avec Dieu, le Créateur, Allah, tout ce qu'on veut. Il y a un côté mystique, il y a un côté... voilà. Et aujourd'hui, dans la société égyptienne, la religion, a été transformée en une conception capitaliste. On a une conception capitaliste de la religion. Alors, le plus que tu vas prier, le mieux, le plus de chances que tu vas aller au paradis. Le plus que tu vas dépenser, ça devient un truc qui, pour moi, n'a aucun sens. C'est un troc. C'est compter les points. Et en fait, ça est tout à fait en contradiction avec l'idée de la religion, voilà, mais aussi en contradiction de ce qu'on voit des actions des personnages. C'est-à-dire qu'on prie, on dépense l'argent pour les pauvres, on utilise des mots tout le temps pour implorer Dieu et ainsi de suite. En même temps, on n'a aucun problème de commettre un crime par le mensonge de foutre quelqu'un en l'air, un jeune homme, de le mettre en prison quand il n'est pas coupable, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on va continuer cette mascarade religieuse, et c'est ça que je voulais aussi montrer, comment on est pieux mais en même temps on commet des atrocités qui ne peuvent pas du tout être liées à la piété ou à la religion ou à tout ce qu'on prêche, en fait.
Et justement, dans la société arabe en général, et particulièrement en Égypte, le rapport à la culture, c'est les historiens français qui appellent ça comme ça, Dominique Sourdier, je crois, il parle d'islam heureux, l'islam de la poésie, tout ça. Comment est-ce que tout ça, finalement, trouve sa place dans la culture arabe aujourd'hui ?
En fait, l'islam, comme toute chose, évolue avec la société. La société arabe d'aujourd'hui, elle est en crise. Alors l'islam, il est en crise, quoi qu'on dise. Voilà, il y a eu un temps où la société arabe, arabo-musulmane, parce que qui s'étendait beaucoup plus que le monde arabe, était une société ouverte qui chantait, dansait, récitait des poésies, construisait des très belles demeures architecturales et ainsi de suite, qui parlait de physique, de maths, de sciences et ainsi de suite. Et là, c'était autre chose. Aujourd'hui, la société, elle est en crise et la religion fait partie de cette société. Elle ne peut pas être autre que... Elle ne peut être qu'un reflet de la crise actuelle. Alors aujourd'hui, on pose des questions sur est-ce que si je bois un peu d'eau pendant le ramadan sans conscience, est-ce que mon jeûne est cassé pour la journée, ou voilà, on est vraiment dans des super détails, des fois super bizarres. Et on oublie les vrais, l'essence de la religion, et c'est pareil pour le reste. C'est-à-dire on est sur des détails qui n'ont aucun sens et qui n'ont pas de valeur. Et par contre, on commet des atrocités, on est violent, on est sans pitié, on manque d'injustice, on manque d'égalité, et pourtant... on se voit comme une société aimable, ouverte, et ainsi de suite. Et c'est là le problème.
Vous parlez du mot de crise, c'est un mot ça, qui est extrêmement théâtral, ce mot de crise. Mais dans votre travail, on a l'impression que vous retenez la crise, finalement, que la crise, entre guillemets, étouffe les personnages. Et vous parvenez à cela par un travail de séquençage sonore, lumineux. Est-ce que vous faites ça pour montrer qu'il y a de la tension, ou pour montrer que finalement la tension elle-même est enfermée dans quelque chose qui la dépasse ?
C'est une bonne question. En fait, moi je vois ce monde en crise et en tension tout le temps. C'est-à-dire il n'y a pas de moment de répit, et on est tendu. On est tout le temps dans ce... Et c'est normal, puisqu'il n'y a jamais un moment de vérité. Comment on peut être à l'aise avec soi-même ? Comment on peut avoir de repos s'il n'y a pas de moment de vérité ? Et le seul, peut-être, moment de vérité dans le spectacle, c'est les quelques secondes quand le chauffeur parle à la, à la petite fille et qui lui dit qu'il a peur, que voilà, qu'il s'expose. C'est le seul moment de vérité du spectacle, mais qui dure que quelques secondes et qui est réprimandé par le reste de la famille très violemment après. J'essaye de recréer cette tension et de la garder tout le long du spectacle pour qu'on sorte de là et qu'on sent le poids. Le spectateur a besoin de sentir dans sa chair le poids de cette tension pour qu'il puisse être plus conscient.
Parce que justement, cette tension, on la sent dès l'entrée du spectacle, puisque la scénographie consiste en un salon avec quelques éléments de décoration de salon, enfin de décor de salon, canapé, autre. Mais il y a une espèce de dispositif derrière qui forme des murs, qui est constitué de grilles à peine fines et qui sont éclairées de façon différente, de façon diverse, et qui créent comme ça des dispositifs un peu fractionnés. Est-ce que la présence de ces grilles, de ces grillages, qu'est-ce qu'elle vient montrer ? Elle montre que finalement les gens sont enfermés, ou plus fondamentalement qu'ils sont séparés par quelque chose ?
En fait, le grillage montre ce côté. On est enfermé, mais on se rencontre pas, parce qu'avec la lumière et avec ce fin grillage, il y a des moments où les grillages ne sont pas visibles. Et même il y a des moments pendant la répétition où les acteurs se sont pris les grillages carrément parce que c'est tellement fin qu'on oublie leur existence. Mais en fait, ils sont là. Et c'est, on est enfermé, mais on se rend même pas compte qu'on est enfermé. Tellement on a été enfermé et qu'on s'est habitué à être enfermé. Et je pense que le décor, il transmet ça avec un génie, un génie incroyable que j'admire, Hassan Baydoun, notre scénographe. Il réussit toujours à donner une autre dimension ou à accentuer certaines dimensions du spectacle.
Et justement, pour revenir à Valas Supper, votre précédent spectacle, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le Tieste de Thomas Joly dans la cour.
Non, je n'ai pas eu la chance de le faire. Je voulais voir plein de choses, mais comme d'habitude à Avignon, on est pris par notre propre spectacle et toutes les choses qui vont avec, et du coup, je n'ai rien vu.
Il y a une scène de banquet aussi quand Thieste quand Atré donne à Thieste ses frères à manger. Et dans votre précédent spectacle, Valas Supper, il y avait aussi un banquet assez lugubre, mais qui en même temps était plutôt burlesque, parce que en tout cas dans le rapport que dans mes souvenirs, on avait presque l'impression que finalement les gens se mangeaient entre eux. Ici, c'est beaucoup plus subtil dans cette pièce. On dirait en français un peu familier qui passe leur temps à se bouffer le nez. C'est comme ça qu'on dirait. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez, dans la façon dont vous avez écrit le texte, vous avez parlé dans la conférence de presse de la façon dont vous aviez écrit ce texte, mais est-ce que malgré tout, il y a une trame comme ça qui s'est dégagée de la difficulté en général de parler au sein de sa propre famille, mais pas seulement parce que les moments de vérité sont très rares, mais peut-être parce que finalement personne ne sait vraiment comment parler avec l'autre, comment faire avec l'autre, au-delà du fait de savoir quelle est la vérité qu'il peut lui apporter ou qu'il peut comprendre.
Oui, je pense aussi. En fait, ils sont tous victimes. C'est ça qui est important. J'espère qu'il est aperçu que ils sont tous victimes eux-mêmes. Et du coup, il y a ce côté de ne plus savoir comment parler avec l'autre, comment prendre ce moment de vérité. On peut pas être vrai tout le temps non plus. Hein, c'est pas. Mais il en faut de temps en temps, et il faut qu'on s'écoute mutuellement et qu'on arrête, qu'on enlève un peu le voile qui nous cache les uns des autres, surtout au sein de la famille. Sinon, ça devient infernal. Et vous avez raison, c'est aussi le manque. On a oublié comment faire ça. Et ça s'apprend. Ça prend du temps et ça s'apprend.
Ce que je dois dire pour nos auditeurs, que c'est ce que je trouve formidable en fait dans votre travail. Et je trouve qu'on n'égale pas ça dans les drames familiaux, en tout cas que je connais, de Jean-Luc Lagarce, tous ces auteurs, je ne sais pas si vous les pratiquez. Mais en tout cas, c'est peut-être les seuls drames familiaux où il n'y a pas d'hypocrisie. Où l'hypocrisie, finalement, on ne la sent pas. Vous pensez cela aussi ou je me trompe totalement ?
Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, mais en fait, c'est le fait... Parce que moi, je pense que les personnages ne sont pas conscients. C'est ça la différence. C'est que mes personnages ne sont pas conscients. Ils sont enfermés dans un huis clos, dans un cercle vicieux qui se répète. Et ils sont tellement là-dedans que voilà, c'est pour eux, ça devient naturel. Et c'est pour ça mon travail avec les acteurs, c'est essayer de montrer ça. En fait. Pour les personnages, ils sont pas vicieux quand ils sont en train de se dire des choses qui sont pas de dire des choses, mais derrière ces choses, il y a plein de sous-textes qui n'ont dit mais qui ont en même temps très clair. Alors pour ces personnages, c'est normal ce qu'ils font, et c'est ça qui pour moi le plus grave, c'est que on n'est même pas conscient de cette hypocrisie qui est là, qui est de cette violence, de cette inégalité, de cette injustice. On n'est pas conscient. On fait comme si c'est naturel et normal. Et c'est ça le problème. Et c'est pour cela qu'on ne le sent pas autant, parce que je travaille avec mes acteurs pour que ça devienne naturel pour eux aussi, en me représentant le personnage, de ne pas montrer cette hypocrisie, de ne pas montrer cette violence, de faire comme si c'était normal.
Et une dernière question, alors qui relève plus d'un désir personnel. Est-ce que vous avez prévu de faire publier vos textes, que ce soit en France ou au Caire où vous travaillez ?
Oui, en fait, c'est un de mes gros projets à venir, c'est de publier mes textes, parce que rien n'est publié. J'ai deux textes traduits en français et en anglais. Mais rien n'est publié encore, et ce que je vais travailler sur ça cette année et l'année prochaine à faire publier, parce qu'il y a des textes qui ne peuvent pas être publiés aussi, parce que c'était des créations qui sont extrêmement difficiles à transcrire. Mais là quand même j'ai 4 ou 5 textes qui sont quand même très publiable, si on puisse dire, et je vais travailler sur ça. C'est un de mes rêves de publier mon travail pour que d'autres metteurs en scène puissent l'utiliser. C'est aussi pour ça qu'on écrit.
Et une dernière question, vous parlez très bien le français. Si jamais vous publiez ces textes, est-ce que vous effectueriez vous-même la traduction en français ?
Non, je travaille avec des traducteurs, même les sous-titrages, tout ça. Bien sûr, je relis et j'ai une discussion avec les traducteurs, mais être traducteur, c'est un métier. Je l'ai fait, moi, pour d'autres textes qui ne sont pas les miens. C'est un métier très dur, je trouve très, très dur. Alors, j'ai arrêté de le faire. Et puis, je préfère que quelqu'un d'autre traduit, parce que c'est toujours comme ça. Il apporte autre chose au texte. Il apporte quelque chose de plus. Et je préfère que c'est quelqu'un d'autre. Et moi, je relis à la fin et j'en discute quand il y a besoin.
Merci Ahmed Alattar. Alors Mama va avoir quelques dates en France. Vous pouvez nous préciser si vous les avez toutes déjà, au moins les périodes ou les lieux.
Alors on est début octobre, vers le 8 octobre à Choisy-le-Roi, et puis après à MC93 Bobigny dans le cadre du Festival d'automne. Et on est à Bourges après, MC Bourges, à Maison de Culture de Bourges, toujours en octobre. La deuxième partie d'octobre. Et puis en novembre, on est à Marseille et aux rencontres à l'échelle, le festival de rencontres à l'échelle. Et on est à Rennes en octobre aussi. Voilà.
Donc, malgré tout, une énorme tournée pour un spectacle créé le 18 juillet à Avignon. Et vous prévoyez de le jouer à l'étranger ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'après Avignon, on a monté la tournée en France, mais après Avignon, je pense et j'espère qu'on aura des possibilités de le montrer ailleurs dans le monde, comme on a fait avec le Last Supper.
Merci beaucoup, Ahmed Alattar.
Merci à vous.